Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes le 12 juin 2024 et pendant encore deux semaines, chaque mercredi après-midi, ce sont des étudiants et des étudiantes de l'UTC qui sont à l'antenne dans le cadre de la matière WE01. Dans cette matière, on étudie le fonctionnement du web et plus généralement du numérique omniprésent autour de nous, dans nos poches, dans nos habitats, dans les espaces publics, dans les administrations françaises et maintenant avec l'explosion de l'intelligence artificielle, ce déploiement des outils numériques pose tout un tas de questions éthiques, sociales, politiques, cognitives, environnementales et tant d'autres. Pendant tout le semestre, les étudiants et étudiantes ont étudié plusieurs problématiques en rapport avec le numérique à travers la lecture et l'écriture d'articles scientifiques. Et aujourd'hui, à la radio, ils et elles vous restituent une partie de ce travail. Pour cette session, je suis accompagné d'Armel, Gurvan, Méline et Nicolas. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et moi, je m'appelle Quentin et la semaine dernière, on vous a parlé de l'explosion de la surveillance par les États et les services de renseignement, notamment avec le déploiement massif du numérique. Aujourd'hui, vous allez rentrer plus profondément dans le vif du sujet en expliquant comment, à partir de la collecte de données sur les réseaux sociaux, on a pu influencer des élections. Cette affaire a un nom assez médiatisé, Cambridge Analytica. Et si ce nom vous est familier, chers auditeurs et auditrices, restez sur notre antenne car à coup sûr, vous apprendrez des choses. C'est parti.
Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry.
The real game changer was Cambridge Analytica.
They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign.
They started using information warfare.
Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter.
I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees.
Someone else that you should be calling to the committee is Brittany Kaiser.
Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower.
The reason why Google, Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth.
We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to.
I do know that their targeting tool was considered a weapon.
There is a possibility that the American public had been experimented on.
This is becoming a criminal matter.
When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked.
And I still fear for your life.
Yeah.
With the powerful people that are involved.
But I can't keep quiet just because it'll make powerful people mad.
Data rights should be considered just fundamental rights.
This is about the integrity of our democracy.
These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what. Because nothing is what it seems.
Voilà donc la bande-annonce du film documentaire The Great Hack sur Netflix, sorti le 24 juillet 2019 et révélant ce qu'on nomme le scandale Cambridge Analytica. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui en s'appuyant notamment sur ce film documentaire. Nous questionnerons dans quelle mesure le scandale Cambridge Analytica a-t-il remis en question les pratiques éthiques en matière de collecte et d'utilisation des données personnelles et quelles sont les implications de ce scandale sur la protection des données, la vie privée et la démocratie dans la société contemporaine. Et tout d'abord, je vais passer la main à Méline pour vous expliquer l'origine du scandale.
Alors, pour débuter, c'est en 2018 que le scandale autour des pratiques de la société de conseil politique, Cambridge Analytica, éclate. Ce scandale révèle la collecte et l'utilisation non autorisée de données personnelles de plus de 50 millions d'utilisateurs de Facebook et met en lumière le rôle de l'entreprise lors de l'élection américaine de 2016. Pour récupérer ces données à des fins de profilage psychologique et de micro-ciblage, Cambridge Analytica a collaboré avec la société fondée par le psychologue et chercheur Alexandre Kogan, Global Science Research, qui est spécialisé dans des activités centrées autour de la collecte et l'analyse de données psychologiques et comportementales à partir des réseaux sociaux, afin de développer un quiz de personnalité proposé aux utilisateurs. Le test comprenait des questions mesurant des traits de personnalité tels que l'ouverture à l'expérience, la conscience, l'extraversion, l'agréabilité et le névrosisme. Les utilisateurs qui installaient l'application donnaient leur consentement pour la collecte de leurs données, mais l'application recueillait également des informations sur leurs amis Facebook sans leur consentement. Cette collecte incluait les profils publics, les mentions « j'aime », les listes d'amis, les informations de contact et les publications des utilisateurs et de leurs amis. Cela a permis de créer des profils détaillés incluant les préférences, les intérêts et les comportements en ligne des utilisateurs, facilitant la diffusion de publicités et de messages politiques conçus pour influencer les attitudes et les comportements des électeurs en jouant sur leurs émotions et leurs traits de personnalité identifiés par le test. Ces données ont été utilisées par l'entreprise pour créer des profils à cibler, notamment en fonction de leurs opinions politiques, puisqu'elle propose aussi des services de conseil politique. Le cabinet de Donald Trump y a eu massivement recours en 2016. Cependant, le rôle exact de Cambridge Analytica dans la victoire de Donald Trump est difficile à quantifier, mais leurs techniques de micro-ciblage et utilisation intensive des données ont permis à sa campagne de mener des opérations de communication et de mobilisation très sophistiquées et personnalisées, influençant potentiellement de manière significative sa victoire en 2016.
Mais alors, plus précisément, qu'est-ce que Cambridge Analytica ? À quel genre d'entreprise fait-elle partie ? Cambridge Analytica était une société londonienne fondée en 2013. Elle n'existe plus depuis 2018, après que le scandale ait été découvert. Cette entreprise était ce qu'on appelle un data broker, une entreprise basant son activité sur la collecte et le traitement de données. Ce genre d'entreprise propose ensuite des services autour de ces dernières, ou encore leur vente directe. Dans le cas de Cambridge Analytica, le chiffre d'affaires de l'entreprise ne provenait pas de la vente directe de données. En effet, au moyen de ces dernières, sur des millions de profils via l'application mentionnée précédemment, Cambridge Analytica tentait d'identifier des attributs plus profonds, plus sensibles, comme la religion, l'orientation sexuelle ou l'orientation politique, en utilisant des algorithmes usant de l'intelligence artificielle. Ce système de déduction peut sembler étonnant à première vue, voire irréaliste. Cependant, Cambridge Analytica n'était pas la seule entreprise à user de ces pratiques. Loin d'être une chimère, c'est une activité courante de certains data brokers. Il faut se rendre compte du nombre colossal de données récupérées par les gens d'Internet comme Google ou Twitter. En effet, rien que Facebook, en 2022, comptait près de 3 milliards d'utilisateurs, soit plus d'un tiers de la population mondiale. Ainsi, ces nombreuses données de sources variées permettent de renforcer le modèle des data brokers en centralisant ces dernières. Elles permettent à ces entreprises d'entraîner des algorithmes de déduction de points de données supplémentaires. Bien qu'il soit difficile de vérifier la véracité de ces dernières. Pour rendre compte de cette quantité titanesque, le data broker Axiom, par exemple, a assuré avoir identifié plus de 2 milliards de profils. En plus de l'analyse de données, Cambridge Analytica se démarquait de ses concurrents par sa spécialisation politique. En effet, elle proposait également des conseils sur la forme des messages politiques et des recommandations sur la manière d'engager les électeurs. L'objectif de Cambridge Analytica était clair: influencer la population à l'aide du micro-ciblage et de la psychologie. Voici donc un extrait d'une publicité réalisée par Cambridge Analytica, dont le titre est « The Future of Political Campaigns », détaillant le fonctionnement de leur activité.
Political campaigns have changed. They're no longer about running the most TV spots, sending out the most direct mail, or spending the most money. They're about who spends the smartest money. In today's political world, where campaigns are getting more expensive and elections are won by small but crucial numbers of votes, putting the right message in front of the right person at the right moment is more important than ever. This is where Cambridge Analytica and our revolutionary data modeling techniques can help. Traditional political campaigns use geography and demographics like age and gender to break down voters into target groups. This can work up to a point, but it misses the important personal details that really drive voter behavior. We combine geographic and demographic information With up to 5,000 data points of national, political, consumer, and lifestyle behavior for every voter in the United States. Then we add a unique extra layer of data about personality, decision-making, and motivation.
Cet extrait nous montre donc la stratégie de l'entreprise de notamment cibler des profils déterminants lors de la campagne politique et non pas toute une population. En effet, il montre à quel point également cette pratique n'était absolument pas dissimulée et elle montre également le nombre extraordinaire de données détenues par l'entreprise, indiquant jusqu'à 5000 points de données par profil et donnant une idée de la précision de son profilage. La spécialisation politique de Cambridge Analytica l'amenait à centrer son activité sur les campagnes politiques. Comme indiqué dans l'extrait, la stratégie de Cambridge Analytica n'est pas d'influencer une population entière, mais seulement les voix pouvant faire la différence. Le rôle de l'entreprise est donc de détecter ces dernières à l'aide du micro-ciblage, formant 2 millions de profils lors de la campagne de Donald Trump en 2016 par exemple. Il suffit ensuite à la campagne d'envoyer des publicités correspondant au profil de ces groupes de personnes via les réseaux sociaux, les mails ou encore la télévision. Christopher Willey, ex-employé de Cambridge Analytica, nous dira même qu'il visait les démons intérieurs de ces personnes. Plus précisément, la stratégie de l'entreprise était de jouer sur les peurs de ces groupes, comme l'immigration ou le mariage homosexuel, avec des messages forts pour marquer ces personnes avec l'émotion. Cela a pour effet de les rendre plus sensibles et moins vigilantes vis-à-vis du programme de la campagne d'après la stratégie de l'entreprise, les engageant possiblement fortement. La religion était utilisée lors de la campagne de 2016 de Trump pour convaincre un public homophobe, ou encore l'image d'un mur pour faire face à l'immigration pour un public raciste. Beaucoup se questionnent cependant sur l'efficacité réelle de ce modèle et sur la précision du profilage. Pour Stéphanie de Chalvron, docteur en psychologie et ingénieur de recherche spécialisé en psychométrie et en sciences du comportement, bien que les prédictions de l'entreprise n'aient rien de scientifique, elles sont réalisées à une telle échelle qu'elles peuvent tout de même avoir une certaine influence malgré l'erreur commise. Cambridge Analytica affirme avoir servi des campagnes de toute taille et de tout spectre idéologique. Cependant, la majeure partie de l'entreprise appartenait à Robert Mercer, principal donateur du républicain Ted Cruz, montrant un potentiel biais envers le parti républicain. On voit cela dans les clients importants de l'entreprise, la quasi-totalité étant des républicains comme Ben Carson, Ted Cruz ou encore Donald Trump lors des élections américaines de 2016, mais également le parti UKIP au Royaume-Uni, proche de l'idéologie du parti républicain des États-Unis lors du référendum de 2016 sur le Brexit. Je laisse maintenant la parole à Méline qui va vous parler des réactions face au scandale.
Le scandale Cambridge Analytica a provoqué une indignation généralisée et une perte significative de confiance du public envers Facebook et les réseaux sociaux en général. Cependant, comme le soulignent les journalistes Laura Calabrese et Camilla Pérez-Lagos, du côté des publics, il y a peu d'études consacrées à leur réaction. Cependant, il y a des mouvements comme le hashtag Delete Facebook qui ont émergé, qui incitaient les utilisateurs à supprimer leurs comptes en signe de protestation. Pourtant, ce mouvement n'a pas réussi à contrecarrer la domination de Facebook. Les utilisateurs se retrouvent face au dilemme d'accepter la violation de leurs données personnelles ou alors de quitter la plateforme. Selon l'économiste Miles Stewart, dans un article publié sur le SSRN, cette situation reflète le capitalisme des plateformes où les utilisateurs sont désavantagés par le modèle de troc qui les oblige à exposer leurs données afin de pouvoir accéder aux services de la plateforme. Laura Calabrese et Camilla Pérez-Lagos notent que ce système de troc crée un paradoxe de la vie privée, une servitude volontaire difficile à combattre en raison du déséquilibre des forces. Le concept de servitude volontaire créé par l'écrivain Étienne Delaboty au XVIe siècle cherche à décrire la manière dont les individus peuvent choisir eux-mêmes de se soumettre à des formes d'oppression, souvent en raison de facteurs psychologiques, sociaux ou économiques. On peut d'ailleurs l'illustrer grâce à ces citations issues du célèbre discours de la servitude volontaire. « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Ce que le tyran a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n'est de vous? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'il ne vous les emprunte? Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas les vôtres? A-t-il pouvoir sur vous qui ne soit de vous-même ?» Donc ces citations, elles s'appliquent parfaitement en numérique si on remplace tyran par GAFAM. Également, les médias du monde entier ont couvert l'affaire de manière intensive, menant des enquêtes approfondies sur les pratiques de Cambridge Analytica et l'utilisation des données personnelles dans les campagnes politiques, soulignant les dangers de la collecte et de l'utilisation non autorisée de données. De nombreux reportages et documentaires ont été produits pour expliquer comment Cambridge Analytica avait accédé aux données de millions d'utilisateurs de Facebook sans leur consentement explicite. Ces enquêtes ont souvent inclus des interviews avec des employés, des dénonciateurs et des experts en protection des données. Des publications telles que The Guardian et The New York Times ont mené des enquêtes approfondies révélant les méthodes utilisées par Cambridge Analytica pour collecter et exploiter les données. Ces enquêtes ont mis en lumière le rôle d'Alexandre Kogan et de Global Science Research dans la collecte initiale des données via des applications telles que Facebook. Donc, du côté de Cambridge Analytica, la société a d'abord tenté de nier les accusations, affirmant que les données avaient été obtenues légalement et n'avaient pas été utilisées pendant la campagne présidentielle de 2016. En revanche, Facebook a présenté des excuses publiques, reconnaissant des erreurs et s'engageant à mieux protéger les données de ses utilisateurs. D'ailleurs, voici un extrait de l'audition devant le Sénat américain en 2018 de Mark Zuckerberg pour répondre aux accusations de violation des données des utilisateurs.
Sous pression, Facebook a annoncé un changement majeur. Le réseau social et son patron, Mark Zuckerberg, ont affirmé que l'ensemble des 2 milliards d'utilisateurs du réseau social allaient pouvoir bénéficier de beaucoup plus de contrôle sur leurs données personnelles.
Alors, je suis désolé, je me suis trompé d'extrait. Je mets le bon extrait.
Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night?
No.
If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged?
Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here.
I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world.
People come to our services to choose to share photos or send messages. And every single time they choose to share something, they have a control right there about who they want to share it with.
Donc, comme le souligne pertinemment un sénateur en interrogeant Mark Zuckerberg, l'affaire Cambridge Analytica touche fondamentalement au droit à la vie privée et aux limites de cette dernière. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, ne souhaiterait pas partager publiquement l'adresse de l'hôtel dans lequel il séjourne. Pourtant, son entreprise a bien permis la collecte massive de données personnelles de 87 millions de profils Facebook sans consentement éclairé. Cette situation n'est pas vraiment due au fait que Facebook aurait orchestré cette fuite de données, car l'entreprise n'en aurait aucun intérêt. En réalité, cette fuite de données vient d'une négligence dans l'outil proposé aux développeurs d'applications, leur permettant de récupérer le graphe social des utilisateurs. Cette faille dont Cambridge Analytica n'est peut-être que la pointe de l'iceberg a mis en lumière le danger inhérent à la collecte de données qui permet de s'introduire dans la vie privée des utilisateurs et de tenter de les manipuler. La protection des données personnelles est devenue un enjeu majeur dans notre société connectée. Actuellement, les données personnelles sont collectées, analysées et utilisées à une échelle sans précédent, non seulement par Facebook mais aussi par une multitude d'autres applications et sites web. Malheureusement, il existe de nombreux exemples de dangers liés à cette collecte de données. Par exemple, en 2019, la banque américaine Capital One a révélé qu'un pirate informatique avait accédé aux informations personnelles d'environ 106 millions de clients et demandeurs de cartes de crédit aux États-Unis et au Canada. Les données volées comprenaient des noms, des adresses, des codes postaux, des numéros de téléphone, adresses e-mail, date de naissance et informations sur les revenus. Même si les entreprises qui collectent ces données ne souhaitent pas manipuler leurs clients, le simple fait de collecter ces données, ces informations peuvent porter atteinte aux utilisateurs. L'affaire Cambridge Analytica est emblématique de ce problème. Facebook n'a jamais souhaité partager les données de ses utilisateurs, mais en possédant une quantité énorme de données centralisées, l'entreprise devient une cible de choix pour des entités malveillantes. Au-delà du piratage ou des failles dans les systèmes, les entreprises elles-mêmes, sans être malveillantes, peuvent vendre ces données en toute conscience, comme dans le cas de la vente de données à des banques ou assurances. Ces institutions peuvent alors utiliser ces informations pour attribuer des taux de risque de prêt ou augmenter les prix des assurances. Ce qui intéresse les entreprises, ce n'est pas tant à qui elles vendent ces données, mais plutôt combien elles peuvent en tirer. Vous avez peut-être déjà entendu la phrase « si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Or, l'exemple de Cambridge Analytica montre que ce qui est monnayable n'est pas tant les données brutes des utilisateurs, mais les prédictions que l'on peut en faire. Ce sont des matières premières. D'ailleurs, Shoshana Zuboff, chercheuse américaine connue pour avoir popularisé le terme de capitalisme de surveillance, explique « Nous ne sommes pas le produit que vend Google, nous sommes les objets dont la matière est extraite, expropriée, puis injectée dans les usines d'intelligence artificielle de Google qui fabriquent les produits prédictifs vendus aux clients réels, les entreprises qui paient pour jouer sur le nouveau marché comportementaux. » Cambridge Analytica a récupéré les données de millions de profils et les a fait passer dans une intelligence artificielle pour tenter de prédire leur comportement. Et c'est ça qu'elles vendent, une possibilité de manipulation. Cet exemple est représentatif de la manière dont fonctionne l'économie moderne des données. Dans le cas de Cambridge Analytica, il ne s'agit donc plus de voir des photos personnelles utilisées sans permission. Il s'agit de manipulations à grande échelle qui peuvent bouleverser des pays entiers, influencer des décisions politiques et altérer des législations. Nous devons dépasser la question du profit des grandes entreprises et nous tourner vers le lien étroit entre la collecte de données, la manipulation des données et les régimes autoritaires.
Le scandale Cambridge Analytica a bouleversé le monde de la technologie et sensibilisé le public à la collecte et à l'utilisation des données personnelles. Les révélations de 2018 ont mis en lumière des pratiques douteuses, voire illégales, menaçant la protection des données. Voici les principales conséquences de ce scandale. Le renforcement des réglementations sur la protection des données a été l'une des premières réactions, bien que le Règlement général sur les protections des données, le RGPD, ait été adopté en 2016. L'affaire Cambridge Analytica a accéléré son application. Depuis mai 2018, le RGPD impose des normes strictes en matière de transparence, de sécurité et de consentement. Pour les données personnelles dans l'Union européenne, les entreprises doivent désormais obtenir un consentement explicite avant de collecter et traiter les données et informer les utilisateurs en cas de violation dans les 72 heures. Ce scandale a également poussé les entreprises technologiques à revoir leur politique de confidentialité. Facebook, par exemple, a limité l'accès des développeurs tiers aux données des utilisateurs et a introduit de nouveaux outils pour mieux contrôler les informations partagées. Google et Apple ont suivi le mouvement en offrant plus la transparence sur les données collectées et en mettant en avant des fonctionnalités de protection de la vie privée. La prise de conscience du public s'est également accrue. Des mouvements comme Delete Facebook ont émergé, encourageant les utilisateurs à supprimer leurs comptes en signe de protestation. Bien que ces mouvements n'aient pas réduit la domination de Facebook, ils ont rendu les utilisateurs plus prudents sur les informations qu'ils partagent et plus enclins à utiliser des outils de protection de la vie privée. En réponse à ce scandale, les entreprises de cybersécurité ont développé de nouveaux outils pour protéger et prévenir des violations de données. Des applications comme Signal et Telegram, axées sur la sécurité et la confidentialité, ont gagné en popularité. Les normes de chiffrement de bout en bout sont devenues plus courantes, garantissant une meilleure protection des données contre l'accès non autorisé. Sur le plan juridique, des sanctions significatives ont été imposées aux entreprises impliquées. En 2019, Facebook a été condamné à une amende record de 5 milliards de dollars par la Federal Trade Commission pour ses manquements en matière de protection de données. Cette amende a non seulement eu un impact financier, mais également envoyé un message fort à l'industrie technologique sur la nécessité de respecter les normes de protection des données. En Europe, le RGPD a permis à la CNIL irlandaise d'infliger plusieurs amendes à la maison mère de Facebook Meta, dont la dernière s'élève à 1,2 milliard d'euros pour avoir transféré sans autorisation des données depuis l'Europe aux États-Unis. En réaction, Meta propose désormais de payer près de 13 euros par mois pour ne plus faire l'objet de publicité ciblée. En conclusion, le scandale Cambridge Analytica a eu un impact important révélant des dangers de la collecte et l'exploitation massive des données personnelles. Les réformes législatives, les changements dans la politique des entreprises et la sensibilisation accrue du public sont autant de conséquences majeures. Pourtant, la protection des données personnelles reste un défi important dans notre société numérique en constante évolution. Cependant, et ce que la situation a réellement changé aujourd'hui, l'application de ces lois et révélations du scandale mondial a-t-il vraiment amélioré les choses ? Facebook, par exemple, protège-t-il mieux ses utilisateurs de nos jours ? Pour répondre à ces questions, écoutons Étienne Combier des Échos qui nous explique où en est Facebook concernant la protection des données et de ses utilisateurs après la mise en place du RGPD et le scandale Cambridge Analytica en 2018.
Sous pression, Facebook a annoncé un changement majeur. Le réseau social et son patron, Mark Zuckerberg, ont affirmé que l'ensemble des 2 milliards d'utilisateurs du réseau social allaient pouvoir bénéficier de beaucoup plus de contrôle sur leurs données personnelles.
And it's not enough to just give people control over their information. We need to make sure that the developers they share it with protect their information too.
Concrètement, Facebook veut permettre aux internautes de contrôler s'ils acceptent d'être reconnus par reconnaissance faciale, quelles informations ils souhaitent laisser aux publicitaires et le partage d'informations dites sensibles comme l'âge, l'orientation sexuelle ou la religion. Mais Facebook n'applique pas de lui-même ces changements. En réalité, deux facteurs sont à l'œuvre. Le premier, c'est le Règlement général sur la protection des données, ou RGPD, qui est imposé par l'Union européenne à partir du 25 mai. Ensuite, Facebook est embourbé dans l'affaire Cambridge Analytica, qui a mis en lumière une gestion catastrophique des données personnelles de ses utilisateurs, avec au moins 87 millions de profils utilisés à des visées politiques, pour l'élection de Trump ou le Brexit, par exemple. Mais là où Facebook a fait fort, c'est qu'il a annoncé que ce contrôle des données personnelles, basé sur le RGPD européen, allait être étendu au monde entier. Oui, mais voilà, la protection ne concernera que les Européens. L'information a été révélée par l'agence Reuters au lendemain de l'annonce de Facebook. Le réseau social a discrètement changé le lieu où sont conservées les données pour ses utilisateurs non européens. Ces données seront maintenant stockées aux États-Unis, où la législation est beaucoup plus souple quant aux données personnelles. Jusqu'à présent, les internautes non américains avaient officiellement leurs données en Irlande. En quelque sorte, Facebook fait un pas en avant, deux pas en arrière. Alors que le réseau social voulait apparaître comme protecteur et relativement en avance, il est en réalité extrêmement pragmatique et ne fait que s'adapter aux législations en place.
Ainsi, le scandale de Cambridge Analytica a bouleversé le monde en 2018 en dévoilant les inquiétantes pratiques de la collecte et l'exploitation des données personnelles. Cet événement a mis en lumière des failles significatives dans la régulation de la protection des données et a démontré comment des informations privées peuvent être utilisées à des fins de manipulation politique et commerciale, menaçant ainsi nos sociétés de plus en plus vulnérables. En réponse à ce scandale, des réformes législatives ont été entreprises, notamment avec l'implantation du RGPD en Europe. Cependant, malgré ces avancées législatives, garantir la sécurité des données personnelles reste un défi de taille. La rapidité avec laquelle les technologies évoluent et la sophistication croissante des techniques de collecte et d'analyse des données rendent cette tâche particulièrement complexe. Les entreprises continuent de manquer de transparence quant à l'utilisation des données qu'elles collectent. De nombreuses organisations exploitent encore les failles réglementaires pour utiliser les informations personnelles à des fins commerciales sans le consentement explicite des utilisateurs. Un exemple récent qui illustre la pertinence et l'actualité de ces préoccupations est celui du Brésil en 2023. Une enquête a révélé que certains citoyens avaient été influencés par des publicités diffusées sur YouTube visant à manipuler l'opinion publique à des fins politiques. Ce scandale montre que les leçons de Cambridge Analytica sont encore d'actualité et que les menaces liées à la manipulation des données personnelles persistent.
Merci beaucoup à vous quatre pour cette présentation super claire et super éclairante. Comme à chaque émission, on va maintenant poser aux questions des gens qui nous écoutent. Alors, pour commencer, il y avait, donc vous avez partiellement répondu, Maxence qui demandait s'il y a des lois qui permettent de légiférer autour des pratiques de ces entreprises. Alors, Nicolas, tu nous as parlé du RGPD. Est-ce que peut-être, en reformulant la question, vous savez si les autres pays, donc hors Europe, à l'annonce de ce scandale, par exemple aux États-Unis, ont essayé de changer quelque chose sur la collecte de données ou il ne s'est pas spécialement passé quelque chose, ou alors vous ne savez pas?
À ma connaissance, je ne connais pas d'autres lois en dehors de l'Europe qui ont fait changer les choses.
En tout cas, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que c'est une loi qui est... Le RGPD, c'est quand même une loi qui est assez forte et qui a résonné même internationalement, qui a fait bouleverser Facebook, etc., à la manière dont ils collectaient les données. Donc je pense qu'on en parle beaucoup et on ne parle pas beaucoup d'autres lois parce que aussi c'est une loi qui est quand même assez imposante au niveau mondial, on va dire.
Oui, effectivement. Et puis comme Nicolas, tu l'as dit, il y a eu des grosses amendes qui ont été imposées à Facebook, mais aussi à d'autres GAFAM via le RGPD, justement parce qu'ils considéraient que transférer les données aux États-Unis, vu que les lois ne protégeaient pas du tout les données autant qu'en Europe, ça devenait illégal. Donc on peut se dire qu'effectivement, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a Emmanuel qui demandait qui faisait partie de l'équipe Cambridge Analytica. Est-ce qu'il y a des noms ou des profils qu'on reconnaît, qui sont un petit peu connus? C'était quoi un peu la composition de ce cabinet?
On a par exemple entendu parler donc de personnes qui étaient donc experts en data, mais aussi on s'attend à des métiers comme des personnes qui travaillent beaucoup dans la communication, donc des vidéastes qui créent donc justement toute cette communication parce qu'ils vendaient donc les conseils avec les données qu'ils collectaient. Donc oui, on s'attend à ce genre de profil.
Merci beaucoup. Anna demandait si la publicité, elle est ciblée sur des personnes qu'ils ont déjà intéressées. Alors dans le cas de Cambridge Analytica, on pourrait dire déjà convaincues. Quel est le but de les viser, elles, et pas celles qui, pour l'instant, ne sont pas intéressées?
Eh bien, c'est justement le but. Le but, ce n'est pas de sensibiliser des voteurs convaincus qui pourraient, par exemple, voter pour les Républicains et qui votent pour le Parti Républicain depuis, je ne sais pas, moi, 20 ans. Le but ici, c'est de se centrer sur les profils qui pourraient faire la différence. Donc, les quelques milliers de voix qui pourraient faire basculer l'élection en faveur du parti, donc par exemple en parti du Républicain, chez des gens qui sont assez mitigés, mais qui auraient par exemple des points faibles vis-à-vis de, je ne sais pas, de l'immigration par une peur quelconque ou de l'homosexualité. Et donc la stratégie, c'est de s'appuyer sur ces points faibles avec, comme je l'ai souligné, vraiment des messages forts, des choses assez choquantes pour vraiment marquer ces électeurs fortement et pouvoir les faire basculer de son côté pour gagner les élections.
Oui, bah c'est très intéressant ce que tu dis. On va vraiment jouer sur l'émotion. Et en fait, peu importe le programme complet ou même la figure de Trump, si on arrive vraiment à trouver le point qui fait que la personne a peur pour le futur du pays, bah en fait, ouais, on a des grandes chances de la faire basculer. Nathan demande quel rôle ont joué les médias lors de la révélation de ce ciblage. Je crois que Nicolas, tu nous as pas mal parlé des réactions dans des articles d'envergure, enfin dans des journaux d'envergure, le New York Times et tout ça. Et plus globalement, est-ce que la confiance des électeurs, elle a été impactée? Alors c'est dur à mesurer, mais est-ce qu'à votre connaissance, ça a choqué aussi l'opinion publique, par exemple, états-unienne?
Alors, comme on a pu le préciser, il n'y a pas eu beaucoup d'études concernant la réaction des électeurs en eux-mêmes. Et on ne sait même pas si réellement la société Cambridge Analytica a pu significativement impacter les élections. Beaucoup d'experts le pensent, mais ça ne peut pas être prouvé. Ça peut pas, donc les électeurs qui étaient convaincus au final ne se sont pas posé la question de est-ce que c'est parce que j'ai été victime de micro-ciblage que je pense ça. Il n'y a pas eu d'étude qui a été consacrée à ça. Et je pense que c'est assez difficile à quantifier aujourd'hui.
Merci beaucoup. Even demandait quels sont les liens qu'a entretenu Cambridge Analytica avec le milieu politique. Alors vous avez dit qu'il y avait une porosité assez forte avec des membres du Parti Républicain. Est-ce que y a d'autres choses du genre ou d'autres cabinets de conseil à la Cambridge Analytica qui pourraient exister, qui eux aussi auraient un lien avec le milieu politique, à votre connaissance?
Ce n'est pas un cas isolé, Cambridge Analytica. À vrai dire, on retrouve des stratégies de la sorte dans l'élection américaine passée, donc de Barack Obama en 2008, si je ne dis pas de bêtises. Là c'était un cas beaucoup plus clair pour les voteurs, mais le principe reste le même, donc c'est vraiment pas un cas isolé, on en retrouve un peu dans tous les milieux politiques en réalité, si on creuse un peu à mon avis, même si elle reste un peu dans l'ombre évidemment.
Donc ce que j'entends de ta réponse, c'est que finalement, c'est pas tant les cabinets comme Cambridge Analytica qui seraient influencés politiquement par leurs relations, que en fait, elles ont des clients et un petit peu importe le client de la famille politique, elles vont mener ces actions.
Exactement.
Oui, c'est ça. Et même, on a pu voir des extraits, nous de notre côté, d'un ancien employé de Cambridge Analytica qui disait que le patron de Cambridge Analytica, lui, il avait pas vraiment, il se posait pas de questions sur ce qu'il faisait. Lui, ce qu'il voulait, c'était gagner. Et donc, je pense que ça illustre bien la stratégie de Cambridge Analytica et de toutes ces entreprises qui peuvent faire la même chose puisqu'elles existent encore aujourd'hui.
Merci beaucoup. Enfin, Alena demandait, est-ce qu'un changement des comportements des utilisateurs de Facebook a été observé après la mise en lumière de ce scandale ? Alors, on a entendu le hashtag Delete Facebook qui a tourné pendant quelques temps, mais est-ce que maintenant on a pu objectiver une perte réelle d'utilisateurs, en tout cas une méfiance plus grande envers Facebook ?
Alors, pas tant que ça. Maintenant, ce qui a plus été impacté, c'est qu'il y a une prise de conscience collective, comme quoi, effectivement, ce qu'on, entre guillemets, on laisse traîner sur les réseaux, bah, ça peut être collecté. Donc, effectivement, les utilisateurs, je pense, maintenant, font bien plus attention à, et sont bien plus consciencieux de ce qui se passe. Également, Facebook a donné accès à différents outils pour qu'on puisse connaître ce que Facebook a comme données sur nous. On peut également demander la suppression de données qu'ils ont sur nous, mais bon, ça, c'est un acte qu'on doit faire en tant qu'utilisateur, c'est pas eux qui vont le faire à notre place. Donc, par rapport au non-utilisateur, je pense pas qu'il y ait une réduction, il y en a même pas eu, mais effectivement, je pense que les utilisateurs sont bien plus conscients de ce qui se passe et font bien plus attention qu'avant sur ça.
Merci beaucoup. J'ai encore trois petites questions à vous poser avant de conclure l'émission. Moi, je me demandais, Méline, tu nous avais présenté un peu la manière dont avaient été récoltées les données à travers des quiz de personnalité, donc qui sont un peu fun parce qu'on y répond, ça nous dit la personnalité qu'on a et tout. Et je me demandais, est-ce que, à ton avis, à ta connaissance, c'est un cas isolé ? Ou est-ce que dans d'autres applications gratuites qu'on peut avoir sur nos téléphones, je ne sais pas, des trucs de suivi d'humeur ou de suivi de sport ou de cycle menstruel ou enfin que sais-je, est-ce que c'est aussi comme ça que ça marche ? Est-ce qu'il y a souvent des données qui sont collectées ou c'est un autre modèle économique ?
Alors, je ne pourrais pas répondre à cette question, je ne me suis pas renseignée sur le sujet.
Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des infos là-dessus parmi vous ?
Après, j'ai plutôt l'impression que la plupart de ces applications-là se basent sur la même stratégie économique, on va dire. C'est une collecte de données et une revente de ces données. Pour la plupart, elles fonctionnent comme ça. Après, il existe évidemment des applications qui ne fonctionnent pas sur ce modèle. Je crois qu'on a parlé de Signal durant la présentation. Des applications voilà, qui viennent un peu contrecarrer les modèles économiques qu'on peut voir plus largement, on va dire, plus répandus.
Ok, donc ouais, c'est intéressant. Du coup, finalement, si on a un petit peu de temps, on peut aller creuser en lisant peut-être un bout de conditions générales d'utilisation, en allant sur le site des applications, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs assez intimes éventuellement qui pourraient nous échapper par ce biais-là, quoi. Mmh. Armen, tu donnais des exemples par rapport à la banque Capital One. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut extrapoler pour dire que finalement... toute collecte massive, y compris faite par une entreprise éthique, transparente, qui ne revend pas les données, mais est-ce que c'est un risque potentiel de vol, de piratage et ensuite d'influence sociale ou politique qui pourrait en découler ?
Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est en fait, même si ces entreprises-là n'ont pas un but forcément malveillant, le simple fait de collecter ces données, en fait, ça laisse un peu, en quelque sorte, une porte ouverte à des entreprises, elles, plus malveillantes, qui peuvent venir donc, piocher ces informations, parce qu'il existe des failles, il existe aussi des piratages, etc. Et le simple fait de les collecter est un danger, en fait, en lui-même.
Ok, bah, c'est assez profond comme implication. Et enfin, allez, dernière question, et puis on va finir l'émission. Nicolas, je me demandais si le respect du RGPD... est-ce que il est vraiment possible finalement ? Parce que je pense à Facebook qui a quand même 98% de son chiffre d'affaires qui vient de la publicité ciblée. Donc comment est-ce qu'il pourrait se conformer au RGPD, avoir le consentement éclairé des utilisateurs et utilisatrices, ne pas exfiltrer ses données hors de France et tout ? Enfin, est-ce que tu en connais un peu plus sur sa stratégie par rapport à ça ? Est-ce qu'il peut faire ça en fait ?
Effectivement, on peut remarquer qu'une grosse partie du chiffre d'affaires est liée à la collecte de données. On peut peut-être imaginer que beaucoup de réseaux sociaux vont se tourner de plus en plus vers des modèles payants, un peu comme a fait X, pour justement trouver une autre source de revenus stable et donc faire moins de collecte de données et rassurer les utilisateurs. Après, en réalité, c'est aussi compliqué de vérifier est-ce qu'il respecte réellement la RGPD, parce que c'est un texte de loi assez vague et c'est une machine un peu sombre aussi, les réseaux sociaux. On ne sait pas exactement comment ça marche, qu'est-ce qu'ils font réellement avec les données qu'ils collectent.
Oui, bah c'est tu résumes très bien la complexité de l'affaire. Hein. Effectivement, moi j'ai vu que maintenant Meta proposait un abonnement à 13€ par mois pour ne pas avoir de publicité ciblée. Bon, faut avoir l'argent. Et aussi que souvent les entreprises avaient un budget pour les amendes, éventuellement pour le RGPD. Donc bon, bah on verra comment ça évolue dans les années suivantes, mais bon, c'est pas encore réglé. Et bon, après, oui, vas-y.
Après, on peut aussi rajouter que, comme on l'avait dit dans la présentation, en réalité, les réseaux sociaux sont dans une position forte. C'est compliqué pour un utilisateur de passer souvent de ces réseaux sociaux parce qu'il n'a pas d'alternative dominante dans le marché.
Oui, tout à fait. Il y a des alternatives qui commencent à émerger, mais le fameux effet réseau qui fait que aller tout seul sur un réseau social alternatif, c'est bien sympa, mais on aimerait bien avoir les gens avec qui on communique d'habitude. Donc effectivement, mais sans doute un enjeu intéressant pour le futur des réseaux sociaux. Bon, et on va pouvoir clore cette émission. Merci encore Armel, Méline, Gurvan et Nicolas pour cette introduction passionnante à Cambridge Analytica et à ses ramifications. Pour nos auditeurs et auditrices, on se retrouve dans une quinzaine de minutes pour une deuxième émission. D'ici là, un petit peu de musique. À tout à l'heure.